À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Alain Mabankou, écrivain franco-congolais.
Troisième épisode, à la croisée des mondes, la politique. Bonsoir Alain Mabankou.
Bonsoir.
Je voudrais qu'on continue cette plongée dans le monde congolais, le monde monténégrin de votre enfance, en parlant aujourd'hui de l'éducation politique que vous avez reçue. Éducation politique à la maison, éducation politique à l'école, éducation politique dans la société congolaise, qui a conduit à être aussi l'homme que vous êtes devenu. Parce qu'il y avait deux rapports, en fait, dans la société, me semble-t-il, à l'époque. Un rapport à la France, la décolonisation était fraîche en 1966, quand vous êtes né, l'indépendance, elle avait 6 ans. Donc vous avez grandi dans les 10-15 premières années avec ce souvenir de la France, qui était quand même pas très loin. Et puis, un rapport au monde communiste, puisque quand vous avez... vous avez grandi à l'école, dans, on le citait, hein, le lycée Karl Marx un peu plus tard, mais à l'école même, vous deviez réciter chaque matin les 4 premiers articles de la loi du mouvement national des pionniers, puisque dirigeait à l'époque le pays un certain Marien Ngouabi, qui était arrivé au pouvoir et qui était le chef de la révolution socialiste congolaise. Commençons, si vous le voulez bien, par l'éducation politique à la maison, puisqu'à la maison, sous le manguier, votre père faisait votre éducation politique. En tous les cas, il répondait aux questions que vous vous posiez.
Oui, parce que nous étions à cette époque où il y avait la guerre en Iran, en Irak, l'époque où il y avait les tribulations des dirigeants iraniens, l'Ayatollah Khomeini, le Shah d'Iran. Et c'était des informations qui nous parvenaient avec une certaine tragédie qui faisait que tout le monde... écoutait et attendait comme si on regardait un film d'horreur devant nous. Et mon père, qui venait chaque soir sous notre manguier, écoutait la radio et moi j'étais à côté et il m'expliquait tout. Il y avait comme un monde manichéen. Il se plaignait. Il disait, vous voyez, vous rendez compte, le Shah d'Iran n'arrive pas à trouver un exil. Il a été poussé à gauche et à droite. Il est de ce côté-ci. On l'a opéré. On suivait tout cela avec une certaine peine. Et ma mère, qui n'aimait pas tellement la politique, pensait que mon père était en train de trop polluer mon esprit et ne souhaitait pas que, à cet âge, que je puisse être au courant de cela. Moi, je récitais les discours des présidents de la République. On apprenait ça à l'école. On avait une classe d'instruction civique. Donc la politique pour nous, c'était toujours ce qui se passait à l'étranger. Ce qui se passait chez nous, ce n'était pas la politique, parce que chez nous, c'était les affaires de la famille, c'était le président de la République, c'est Dieu, Dieu l'a envoyé sur terre. Donc les autres pays faisaient de la politique. Que ce soit au moment de la mort du général de Gaulle, avec tout ce, le côté solennel de mon père, qui avant de manger, il a dit « Vous êtes en train de manger ici alors que de Gaulle, parce qu'on disait au Congo de Gaulle, alors que de Gaulle est mort, vous n'avez pas le droit de manger. » Et on faisait une prière. Et le jour de l'enterrement de Gaulle, mon père est venu avec le Paris Match, qui avait fait retracer en 2 longues pages comme ça là le long cercueil du général de Gaulle, où c'était écrit qu'il venait d'être enterré à Colombey les deux églises. Et ma mère, qui comprenait rien, qui dit, il était tellement grand qu'il ne pouvait pas suffire dans une seule église, on l'a enterré dans 2 églises. Voilà, Colombey, c'est le jour là que j'ai su qu'est-ce qu'était Colombey les deux églises. Et quand je suis venu en France, je suis allé voir Colombey les deux églises.
Et voilà. Vous dites aussi qu'on appelait Georges Pompidou, le président Georges Pompidou, voilà. Tonton Pompidou, il faisait partie de la maison.
Tonton Pompidou parce que il était un peu rond, il était gentil, voilà, il ressemblait vraiment aux blancs qui donnent des bonbons aux petits dans le quartier du côté de l'hôtel Victory Palace, etc. Donc on l'appelait toujours Tonton Pompidou. Donc nous, quand on était petits, les présidents français ou étrangers arrivaient, on nous habillait en pionniers de la Révolution avec des foulards rouges et on nous étendait le long de l'aéroport et les présidents passaient comme ça. Moi, j'ai vu défiler la plupart des présidents. que ce soit quand les Ceausescu de l'époque de Roumanie passaient, je les ai vus passer. Les Pompidou, quand ils sont venus, je les ai vus passer. Les présidents africains, à l'époque de Thomas Sankara et les autres, on les voyait passer parce qu'on était les pionniers de la révolution. On était là, on chantait les noms des présidents. On a fait l'éloge de Madame Ceausescu, vous vous rendez compte? On dit, ah, Maman Ceausescu est arrivée, nous n'aurons plus faim, il nous a amené les cadeaux. Mais à la fin, Maman Ceausescu, il a donné des fleurs. Et là, on était déçus, on a dit, mais on ne va pas manger les fleurs. On était venus, on pensait que Maman Ceausescu avait amené de la nourriture, etc., etc. Parce que la Roumanie, étant un pays rouge, il y avait des rapports avec le Congo-Brazzaville. Les ennemis, pour nous, c'était les capitalistes qui voulaient du mal. On ne voyait pas l'autre aspect de la dictature qui était de l'autre côté, de la Roumanie. On voyait que les autres occidentaux qui étaient contre un pays frère ou une nation sœur, donc la Roumanie.
Juste avant de passer à cette dimension de l'éducation politique, qui est la dimension soviétique et socialiste, que vous avez reçue à la Mabankou, un mot sur la France, puisque il y avait les présidents, la mort de Gaulle, vu par votre père, Tonton Pompidou, à l'époque, on appelait comme ça, parce qu'il était quand même assez proche. Mais il n'y avait pas seulement la politique dans la relation à la France à l'époque, il y avait aussi la culture. C'est-à-dire que vous avez grandi avec Georges Brassens, avec Marcel Pagnol, je ne les donne pas tous, j'en donne quelques-uns, avec les aventures d'Astérix et Obélix, etc. Donc la décolonisation des esprits, de la culture, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Et vous avez grandi avec ce rapport-là à la culture française.
Parce que le Congo-Brazzaville avait une sorte d'hybridité dans sa conception de l'indépendance. D'un côté, on avait réclamé l'indépendance, on l'a eu, mais de l'autre, on ne voulait pas tout perdre, ou bien on ne voulait pas tout effacer d'un seul coup. Donc, même si on était indépendant, l'école était française, dans le sens où on avait les mêmes programmes que les lycées français, les collèges français, on avait les mêmes lectures, on continuait à lire les auteurs français. Moi, jusqu'au lycée, on lisait Vol de nuit, de Saint-Exupéry, on lisait, je sais pas, beaucoup dans les Lagardes des Michards, c'était le même programme qui était là. Et donc, tout ce qui était littérature française, pour nous, on pensait même pas que c'était littérature française. C'était notre littérature. Sauf que ces écrivains qui étaient blancs, ils avaient eu la malchance de naître dans un pays qui n'était pas le nôtre. Donc on avait l'impression que Victor Hugo, ce sont mes récitations. D'ailleurs, on ne disait pas poème. Je connais les récitations de Victor Hugo. On chantait demain, dans les musiciens, chantait demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Et donc on chantait tout ça, où, voilà, on avait les Chateaubriands, mon cœur à ta clarté s'enflamme, je sens des transports inconnus, douce lumière, es-tu leur âme. On draguait les filles avec ça. Mais on arrivait, on se disait, ah, c'est la poésie française. C'est la littérature française. Et à l'intérieur, on a commencé aussi à étudier les grands poètes africains. On a commencé à étudier les Léopold Sédar Senghor, les Birago Diop, puis les Antillais, les Aimé Césaire. Et voilà. Donc ça nous donnait la chance de connaître la littérature de notre ancien colonisateur, mais de dominer aussi le colonisateur, parce qu'à côté, nous avions la littérature africaine que le colonisateur n'avait pas pris le temps d'apprendre. Peut-être la grande erreur du colon, c'est d'avoir sous-estimé les cultures africaines. Et le colon a besoin de ces cultures africaines aujourd'hui pour sauver sa peau face à la mondialisation du monde. Parce qu'on ne va pas dans la mondialisation avec les reliques de la nostalgie des empires, on y va avec le nouveau visage du monde qui est un visage du métissage. Et le métissage, c'est la réintégration des cultures africaines à l'intérieur du grand champ de la civilisation.
Donc les récitations de Victor Hugo d'un côté, mais d'autres récitations de l'autre, dans le deuxième pan de cette double culture politique que vous avez reçue à la Mabankou, d'un côté la présence vive de la France, de l'autre côté le pouvoir communiste, donc de Marien Ngouabi. Cet autre pan de récitation, c'est que, en cours d'instruction civique, en tout cas, avant de réciter les fables de La Fontaine, vous chantiez une chanson soviétique, peut-être dont vous vous souvenez encore d'ailleurs, « Quand passent les cigognes ».
Voilà, quand passe les cigognes, qui était une chanson soviétique, qui rappelait comment ça dopait l'armée soviétique, en se disant que même si vous allez au combat et que les soldats ont été tués, ces soldats vont renaître, ils vont passer, ils vont devenir des cigognes, parce que les cigognes sont toujours dans le sens de l'immortalité. D'où le livre, moi je l'avais intitulé « Les cigognes sont immortelles ». Mais en même temps, chez nous, le président de la République était considéré comme un immortel. Donc le président Marien Ngouabi, qui avait été au pouvoir de 69 jusqu'au milieu des années 70, on l'appelait l'immortel Marien Ngouabi. Il était mort, mais on continuait à l'appeler l'immortel. Donc on allait dans le cours d'instruction politique où on nous apprenait dans la propagande que les héros de la nation sont immortels. Donc pour moi, c'était aussi à la fois montrer comment le communisme nous avait inculqué une certaine façon de voir le monde de manière unilatérale, ne laissant pas place à la critique, et où on nous avait présenté l'indépendance et le capitalisme comme étant les ennemis même de la révolution. Le communiste n'est pas censé être indépendant puisqu'il est prisonnier de l'idéologie collective. Le capitaliste est trop peut-être indépendant puisque dans son besoin de pouvoir être bien, il est obligé d'écraser les autres. Et au milieu coule cette rivière de la tradition que nous n'avons jamais pu aller voir pour boire à la source. La tradition africaine est une tradition de la mesure, de l'équilibre et de la tolérance. Entre l'individu et la communauté, il y a une sorte d'amitié du paralytique et de l'aveugle. On s'aide les uns les autres. Ce qui manque à nos sociétés, c'était l'entraide. Le communisme nous faisait miroiter que nous allons nous aider. D'ailleurs, la devise, c'était « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Mais vous vous unissez pour qui? Pour les pachas communistes. Le communiste, c'est celui qui dit que ça appartient au peuple, mais dans la nuit, ça appartient à un individu. Le capitaliste, c'est celui qui vous dit directement que ça n'appartient pas au peuple, ça m'appartient. Et si vous voulez avoir au moins un centime ici, vous allez transpirer, vous allez travailler pour moi. C'est clair. Vous allez jouer, non, je ne le ferai jamais, mais quand vous aurez faim, vous allez travailler. Donc c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et peut-être qu'il faut aussi voir ce que nous proposent ces traditions, qu'elles soient africaines ou européennes d'ailleurs.
Ah là, bah, beaucoup on voit hein, l'impact que cette éducation politique a eu sur vous. Vous disiez tout à l'heure que l'immortel, enfin celui qui était surnommé l'immortel, le président Ngouabi, est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. De fait, il n'était pas si immortel puisqu'il a été assassiné en 1977. Histoire que vous racontez donc dans Les cigognes sont immortels. Il a été assassiné en même temps que le capitaine Luc Kimbwala Nkaya, qui était cofondateur du Parti congolais du travail, comme le président de la République à l'époque, mais qui était aussi le frère de votre maman, maman Pauline, la mère du petit Michel, Michel étant le narrateur de tous ces romans, puisque c'est souvent raconté à hauteur d'enfant. Cette chronique historique s'est donc muée en drame familial à cette époque-là.
Oui, je pense que c'est aussi ça, comment l'histoire politique croise l'histoire familiale. En Afrique, la politique, c'est une histoire de famille. Si en Europe, parfois, vous l'avez catapultée dans la famille politique, il est difficile pour nous autres, en Afrique, de passer de la famille à la famille politique, parce que la famille politique n'existe pas en Afrique, dans ces régimes dictatoriaux. C'est la famille au sens où c'est mon père qui est le président, donc le fils aussi, je fais ce que je veux. J'ai dire que le fils de François Hollande ne pouvait pas venir dicter aux Français ce qu'ils avaient à faire. Mais si vous allez au Congo, dans les autres pays, au Congo, le fils de Sassou va dicter ce que les autres doivent faire, le fils de Paul Biya doit dicter ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment dans le sens de la famille pointue, directement dans ce sens. Et nous, on n'a jamais pris chez nous, à la maison, la politique comme étant notre tasse de thé, comme on disait. Moi, je prenais ça comme un jeu. Je lisais, je regardais ce qui se faisait, j'enregistrais. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je comprenais que je faisais de la politique sans le savoir.
Vous étiez rêveur, hein, enfant. Voilà. Vous oscilliez, on pourrait voir ça comme ça, entre la naïveté et la lucidité du petit héros de Petit Piment.
Je pense que la lucidité et la naïveté sont essentielles pour n'importe quel écrivain. Ça vous permet de rester toujours alerte. Et pour parler de politique, j'aime beaucoup inventer en effet des personnages qui jouent à la naïveté. Que ce soit le petit Michel, que ce soit le petit Piment, c'est des personnages en réalité très importants, les fameux gamins de la rue ou bien des enfants qui parlent de la politique. Les plus grands politiciens sont les enfants, ils savent en parler sans esprit de parti.
Alain Mabankou, quand vous êtes arrivé en France en 1989, à l'âge de 23 ans, c'est donc fort d'une éducation entre deux mondes, entre deux cultures politiques, la France d'un côté, le pouvoir communiste de l'autre que vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé aussi à un moment où vous aviez grandi, disons, comme vous le disiez tout à l'heure, entre eux et nous, eux étant les Blancs et les capitalistes noirs.
Oui.
Vous arrivez en France, un pays dont vous connaissez très bien la culture, mais disons un pays qui est très différent du Congo. Vous ne le connaissiez pas à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières années en France et de la façon dont vous avez découvert ce pays et dont on vous a accueilli dans ce pays?
Oui, les premières impressions, c'est que quand j'étais arrivé en France, j'avais l'impression de connaître la France déjà, puisque on en parlait, on lisait les programmes, la culture, etc. J'avais l'impression que j'arrivais dans un pays qui était comme le Eldorado, le Pérou, dans le sens où il y aurait tout. Hein. Et mais la première fois, ce qui m'avait frappé, évidemment, c'est le changement de température, le changement d'autres, et puis cette sorte de liberté de vie que je ne trouvais pas ailleurs. C'est-à-dire que je vivais ma vie comme je l'entendais. Je pouvais dire quoi que ce soit sur la politique ou le président. Le lendemain, personne ne vient de frapper à ma porte parce que j'ai dit du mal de tel ou tel président ou de tel ou tel parti.
Parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que quand vous avez quitté le Congo, vous étiez déjà, en tous les cas au Congo, sous la coupe de Denis Sassou Nguesso, qui a pris le pouvoir en 1979, qui est resté au pouvoir jusqu'en 92, qui est revenu en 97 et qui s'est fait réélire en 2015. Donc quand vous êtes parti en 89, il était encore au pouvoir et il a instauré un pouvoir que vous allez vous qualifier.
Oui, je pense que c'est... De toute façon, il n'est pas normal, par exemple, qu'on puisse rester au pouvoir pendant plus de 10 ans. Hein, il y a l'usure du pouvoir. Soit, quelle que soit la personne qui dépasse 10 ans, on commence à être dans une sorte de dictature. Moi, j'avais toujours exprimé mon désarroi face à la politique congolaise, en me disant qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. On aurait pu apprendre au peuple la patience du changement. On aurait pu profiter du fait que les jeunes puissent proposer aussi à la nation des pistes de développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, les nations comme le Congo, le Cameroun, le Togo marchent avec des vieilles recettes qui sont inadaptées aux réalités contemporaines. Parce que les présidents qui dirigent ces pays dirigent dans la nostalgie du passé, soit de leurs pères, soit des anciens dictateurs. Et c'est là où le bât blesse. Il blesse encore plus quand on sent que la France sponsorise ses attitudes.
En mai 2016, vous avez même écrit au président Hollande, hein, à l'époque, pour dénoncer le silence face à l'élection que vous jugiez truquée et qui a manifestement été truquée. Revenons donc à la France en 1989, dans les années 90, quand vous y arrivez. Sentiment de liberté, donc, disiez-vous, déjà.
Voilà, sentiment de liberté, mais aussi déception, étonnement. Étonnement de voir que la France n'était pas le pays qu'on nous présentait là-bas. Qu'il y avait aussi les misères, qu'il y avait des grèves, qu'il y avait des chômeurs, qu'il y avait des sans-abri, qu'il y avait des SDF, qu'il y avait des problèmes politiques très profonds sur la question de la sécurité sociale, etc. J'ai vu vraiment une nation qui était dans une situation délicate où les présidents utilisaient la démagogie comme tout le monde pour gagner les élections et ne pas régler les problèmes des Français. Et puis j'ai vu aussi les possibilités peut-être culturelles qui étaient offertes pour moi. Les librairies, les maisons d'édition, je sais pas, les bibliothèques où je pouvais m'y rendre pour le faire dans ce sens. La possibilité pour moi de m'épanouir dans ce sens et aussi l'ouverture de certains amis français que j'ai trouvé à la fac, que j'ai trouvé aussi bien à la fac à Nantes, à la fac à Paris-Dauphine. Nous avons créé une certaine complicité. Et pour moi, je me sentais plutôt dans un pays qui avait la nostalgie de sa grandeur et peut-être l'impuissance devant la résolution de ses problèmes actuels. Et donc, chaque fois que la France veut régler un problème, pour se consoler, elle se dit « nous sommes quand même une grande nation ». Ce n'est pas parce que vous bombez les pectoraux que le problème a été réglé. Vous pouvez être grande nation, mais vous ne réglez pas le petit problème. À force de trop muscler votre biceps, si on vous met une pièce sur les épaules, vous n'allez pas la toucher. Donc, il faut, à un moment donné, pousser les réformes à fond pour faire marcher un pays.
C'est d'ailleurs un livre sur la désillusion que vous avez écrit en 1998. C'était votre premier roman, Alain Mabankou, Bleu, Blanc, Rouge, Grand Prix de la littérature d'Afrique noire. Mmh. Alors, deux questions. Déjà, comment êtes-vous passé au roman, puisque vous écriviez des poèmes? Et puis ensuite, est-ce que vous diriez que justement, c'est fort de cette conscience politique dans laquelle vous avez grandi, puis qui vous a éveillé, dessillé les yeux quand vous êtes arrivé en France, que vous avez écrit un premier livre sur l'immigration et la désillusion de l'immigration en France, donc un premier grand livre politique?
Oui, c'était un premier grand livre politique, parce que quand j'étais arrivé, habitant maintenant à Paris un an après, je vivais dans le milieu de Congolais qui étaient dans des situations délicates. Certains étaient arrivés par l'immigration clandestine, d'autres venaient de sortir de la prison parce qu'ils avaient fait des petits délits à gauche et à droite. Et nous étions à une période où, si vous allez à Château-Rouge, vous avez une Afrique qui était à côté. Donc, ces problèmes se posaient à moi comme avec une acuité telle que c'était la narration qui pouvait sauver cela. Et donc j'ai commencé pratiquement à écrire ce premier roman, Bleu, Blanc, Rouge, dans ces années 90. Et quand il est sorti en 98, c'était là où les grandes thématiques même de la littérature africaine étaient celles de l'immigration qu'on trouvait du côté du Camerounais, de la pauvre J.R. Esomba, d'un autre Congolais de Brazzaville qui s'appelle Daniel Biaoula. On formait cette sorte de trio qui parlait de cette immigration congolaise, la sape, c'est pas la débrouillardise, la vente des tickets de métro. À l'époque, il y avait les tickets orange qu'on achetait en France chaque mois. Et donc, ça faisait déjà pour moi la propension à une littérature qui regardait les turbulences sociales des Noirs en France. Ce qui plus tard allait me faire écrire Le sanglot de l'homme noir, Lettre à Jimmy, ou bien le documentaire que j'avais coécrit Noir en France.
Donc, réalisé par Aurélia Perrou et qui a été diffusé sur France 2.
Voilà, donc ça faisait vraiment le
une continuité.
Voilà.
Votre ami, Dany Laferrière, dit de toute façon de votre écriture qu'elle a toujours été politique. Vous êtes d'accord?
Je pense, oui, venant d'un haïtien.
Venant de lui, ça va.
Voilà. Venant d'un haïtien, je suis à 100% d'accord parce que Haïti, quand même, c'est le pays qui bat les records de tous les coups d'État au monde. C'est d'ailleurs Laferrière qui m'avait dit, ils en sont en plus de 70 coups d'État politiques. Donc, s'il est dit politiquement, même lorsque je parle de ma biographie, de mon autobiographie, il y a toujours un aspect politique. De toute façon, lorsque vous voulez rendre la vie des gens un peu plus acceptable, vous posez un acte politique parce que vous donniez à la société une petite clé qui pourrait ouvrir une petite porte. Si chacun de nous avait cette passion de faire de la politique, pas dans le sens politique qu'on entend, eh bien peut-être que nous réglerions beaucoup de nos problèmes aujourd'hui.
Écrire est un acte politique, et le langage est un acte politique, le langage est un choix politique. Dans votre langage, il y a la langue, vous écrivez en français, on vous qualifie souvent d'écrivain francophone à la Babancou, mais vous vous battez pour qu'on parle d'écrivain, ou d'écrivaine d'ailleurs, d'expression française plutôt que francophone.
Oui, parce que dire à quelqu'un qu'il est écrivain francophone, c'est un peu le balkaniser. C'est quoi le francophone? C'est pas une langue. La francophonie est une posture politique. Donc je pense que nous sommes des écrivains d'expression française. Je suis un écrivain d'origine congolaise qui écrit en français parce que c'est la seule langue qu'il a trouvée écrite chez lui et qui lui a permis d'écrire des romans. Donc me dire que je suis un écrivain francophone et que Houellebecq est un écrivain français, qu'est-ce qui nous différencie? On a tous les deux le passeport français. Pourquoi il ne serait pas francophone? La France est un pays qui fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais la France est le seul pays où les écrivains ne sont pas qualifiés d'écrivains francophones. Ça veut donc dire qu'un écrivain francophone, c'est un écrivain qui a été colonisé et qui écrit avec un accent. Par voie des conséquences, ça, c'est de l'ostracisme, c'est de la discrimination éhontée et sponsorisée par des institutions internationales.
C'est ce qui vous a conduit à refuser la proposition que vous avez faite, le président Emmanuel Macron, de réinventer avec lui la francophonie. Le langage à la Mabankou, c'est aussi le choix de la parodie, de l'humour, de la fable, du conte qu'on retrouve dans Mémoire de Porc-Épic, dans Les Petits-Fils Nègres de Vercingétorix, dans African Psycho ou dans Petit Piment. La fable a forcément une espèce de piment politique, j'allais dire.
Oui, la fable est importante parce qu'elle permet de revenir aux fondamentaux. Quand un personnage prend les traits, par exemple, d'un animal pour dire la vérité, eh bien, moi, j'ai toujours aimé la fable parce que ça me donne l'amplitude de pouvoir démultiplier mon imaginaire et de dire le monde tel qu'il est et de refuser le portrait robot qui a été tracé depuis très longtemps.
Et puis, enfin, il y a les thèmes que vous choisissez. Si je prends un seul livre, Le commerce des allongés, c'est les inégalités sociales, c'est la lutte des classes, c'est la dénonciation de la corruption, le poids des traditions, la place des femmes. Encore beaucoup de thèmes fortement politiques.
Des thèmes très, très politiques. Et je pense qu'on n'en aura pas fini à en faire le bilan. Je pense aussi qu'il faut que nous insistions sur la place de la femme dans les sociétés africaines. Le portrait qui a été fait jusqu'alors est un portrait trompeur. La femme est puissante en Afrique.
Merci Alain Mabankou. On se retrouve demain. Nous changerons de continent puisque nous irons aux États-Unis.
Merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Stéphane Foulon, réalisation Laure-Hélène Planchet, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.